France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le fabuleux destin de Pauline Viardot, Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode du fabuleux destin de Pauline Viardot. Au menu du jour, le retour éclatant de notre héroïne sur la scène parisienne, sa collaboration avec Charles Gounod et Hector Berlioz qui vont tomber sous son charme et lui tailler des rôles à sa mesure. En guest star dans le rôle de Pauline, vous entendrez comme à chaque fois la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. La dernière fois, nous avons laissé Pauline en compagnie du compositeur Giacomo Meyerbeer à Berlin. Et souvenez-vous, celui-ci avait juré de ne jamais redonner un opéra à Paris tant que Pauline Viardot n'y serait pas engagée. Il faut dire qu'il y a de quoi être fasciné. Pauline accomplit exploit sur exploit. Par exemple, en 1847 à Berlin. En pleine préparation de Robert le Diable, de Meyerbeer justement, l'une des chanteuses, Mademoiselle Toutchek, tombe brusquement malade. Pour sauver le spectacle, la direction du théâtre supplie Pauline Viardot de reprendre le rôle, en plus du sien. Le pari est extrême, mais Pauline accepte. Il en faut plus pour lui faire peur. Seulement 2 jours plus tard, c'est gagné. Elle se dédouble au cours de la même soirée et incarne à la fois les personnages d'Alice et d'Isabelle avec brio. Nous sommes maintenant en 1849. Pauline a 28 ans. Pour rappel, depuis 1843, elle n'est jamais retournée sur aucune scène française. Les places coûtent cher à l'époque et les divas capricieuses monopolisent les théâtres. On reproche aussi à Pauline les engagements républicains de son mari. Mais depuis, les temps ont changé. La monarchie de Louis-Philippe a été balayée par la révolution de 1848 et la deuxième république de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, a été instaurée. Et les grandes divas d'hier ne sont plus ce qu'elles étaient. Giulia Grisi, vous vous en souvenez? La numéro 1 du théâtre italien. Eh bien, d'après George Sand, elle tombe en ruine. Quant à Rosine Stolz, la diva de l'opéra, elle a été chassée par le public. Bref, la voie est libre pour Pauline. En plus, le Tout Paris a suivi ses succès à l'étranger, raconté dans la presse, et a hâte de l'entendre. Mais Meyerbeer va saisir l'occasion et imposer Pauline Viardot dans son nouvel opéra, Le Prophète.
Meyerbeer a tenu sa promesse faite à Berlin, ne revenir à Paris que lorsque j'y serai engagée. Son opéra Le Prophète est un chef-d'œuvre. Je l'ai su dès la première lecture de la partition. La musique est à la fois noble, dramatique et touchante. On y trouve davantage de simplicité que dans ses deux précédents opéras, Robert le Diable et Les Huguenots. Des effets nouveaux sont créés à l'orchestre, par exemple avec l'usage du registre grave de la flûte ou le chant en triolet au saxophone. Mon personnage de Fidès, mère forte et aimante, m'enchantait. D'un point de vue musical, le rôle est des plus complets. La plupart du temps, Fidès s'exprime en parler chanté. Cela ne l'empêche pas d'avoir de grands airs et même quelques éclats de virtuosité. Lors des répétitions, tout le monde était extrêmement enthousiaste. Surtout Gustave Roger, qui incarnait mon fils. J'étais si impatiente de créer l'œuvre. La première, du 16 avril 1849, a été un grand succès. Louis-Napoléon Bonaparte en personne était présent. Ma chère Mamita était venue exprès de Bruxelles pour me voir. Il y avait aussi Tourguenieff, Berlioz et Chopin qui, lui, n'a pas beaucoup aimé l'opéra.
Thank you.
En 1849, le nom de Pauline Viardot est sur toutes les lèvres. Grâce à son rôle dans Le Prophète, elle est devenue la chanteuse du moment, la star indétrônable de l'opéra. La même année, on ne sait par quelle entremise, elle fait la connaissance d'un certain Charles Gounod, compositeur en tout début de carrière. Gounod est un homme très fervent et jusque-là, il a surtout composé de la musique sacrée. D'ailleurs, dans sa jeunesse, il songeait sérieusement à entrer dans les ordres. Quand il rencontre Pauline, il sort de 2 ans de séminaire à Saint-Sulpice. C'est aussi un peu un original, ce Gounod. Parfois, il a des crises mystiques. Il se prend alors pour un abbé et porte la soutane, alors qu'il n'en a pas le droit, bien sûr. Finalement, entre la musique et la religion, ces deux passions, Gounod opte pour la première. Et pour se forger un nom, quelques mélodies et œuvres sacrées ne suffisent pas. Il faut un opéra à son CV. Un jour de 1849, Gounod se rend chez Pauline Viardot pour lui présenter ses compositions. Il a 31 ans, à peine 3 de plus qu'elle. En fait, ils se connaissent déjà, mais la cantatrice a oublié. C'était 10 ans plus tôt, au moment du voyage de noces de Pauline en Italie. Plus précisément lors d'une soirée à la Villa Médicis. Gounod en était alors pensionnaire et avait accompagné Pauline au piano dans un air du Freischütz de Weber. Si Pauline n'a gardé aucun souvenir de Gounod, 10 ans plus tard, en revanche, elle ne risque pas de l'oublier. Ensemble, ils passent près de 2 heures au piano, sans voir le temps passer. Pauline est enchantée par ce qu'elle entend. Elle est convaincue d'être face à un génie. Elle en est certaine. Gounod deviendra un grand homme dès que sa musique sera connue. Et pour cela, elle va l'aider. En plus, ce Gounod a tout pour lui. Il est brillant, il est bel homme. Très distingué, il porte une barbe noire, parfaitement taillée. Son large front respire l'intelligence et la bienveillance. Pauline déborde d'enthousiasme et lui demande d'écrire un opéra. Elle en tiendra le rôle principal. L'opéra que Gounod va composer pour Pauline, c'est Sappho. Très vite, on signe les papiers chez le directeur de l'Opéra de Paris, Noël Roqueplan. La livraison est prévue pour le 30 septembre 1850.
Thank you.
La collaboration entre Charles Gounod et Pauline Viardot marque aussi le début d'une amitié intense, si ce n'est pas plus. Gounod s'enflamme complètement pour Pauline. Et quand elle part en Allemagne début avril 1850 pour une tournée, c'est la catastrophe. Enfin, la vraie catastrophe reste à venir. Le 6 avril, un terrible malheur frappe Gounod. La mort brutale de son frère aîné, Urbain, qu'il aimait beaucoup. Pour ne rien arranger, Urbain laisse derrière lui un enfant, une femme enceinte et de nombreux problèmes administratifs. Désespéré, Gounod écrit à Pauline. Celle-ci est bien navrée d'être loin et de ne pouvoir l'aider, mais elle va quand même faire ce qu'elle peut et jouer aux bonnes fées. Elle propose à Gounod et à sa mère d'aller se reposer quelque temps chez elle, à la campagne, dans son château de Courtavenelle, où se trouvent sa famille et ses amis. C'est en 1844 que les Viardot ont fait l'acquisition du domaine de Courtavenelle en Seine-et-Marne. En tout, le domaine et les travaux ont coûté 130 000 francs à Louis Viardot, plus ou moins l'équivalent de la somme que Pauline a gagnée pour deux saisons en Russie. Le manoir, très joli, date du XVIIe. Il compte un étage, possède un toit en ardoise et deux tourelles d'angle. Il est entouré de fossés remplis d'eau et d'un parc charmant, avec de grands massifs d'arbres et une pelouse bordée de roses et de dahlias. C'est donc dans ce cadre champêtre que débarquent les Gounod, alors que Pauline est en Allemagne. Gounod et sa mère sont arrivés à Courtavenelle fin avril. Ils ont été accueillis par Mamita, Tourguenieff, mon oncle et ma tante. D'après les nouvelles que j'ai reçues, l'ambiance était familiale et amicale. Je crois que Gounod était intimidé de se retrouver à la même table que la mère de la Malibran, qu'il avait tant admirée par le passé. Ma Louisette était ravie des nouveaux venus et a trouvé en Gounod un parfait compagnon de jeu.
Lors des promenades, il l'installait à cheval sur ses épaules et elle en était très fière. Gounod travaillait à son futur opéra, tandis que Mamita, son frère Paolo, Tourguéniev et Berthe s'adonnaient à de prenantes parties de whist. Dès que j'avais du temps entre deux tournées, je revenais à Courtavenel pour me reposer. Nous avons passé d'excellents moments, surtout grâce à Louis, qui a eu la brillante idée de faire construire un théâtre privé dans la salle des gardes. Il avait pensé à tout. Plateau, rideau, loge d'artistes, trou du souffleur, rien ne manquait. Que de pièces avons-nous montées là-bas? Des comédies de Beaumarchais aux tragédies de Racine. Chacun avait un rôle. Dans le mariage de Figaro, Tourguéniev était Almaviva, Gounod Figaro, Mamita Don Basile, Louise Chérubin, et j'interprétais Suzanne. Nous avions mis en place une tradition pour nos invités. Chacun payait sa place en déposant une pomme de terre du potager à l'entrée du théâtre.
Non so più cosa son, cosa faccio, ogni fuoco reso, ogni ghiaccio, ogni donna non giur di colore, ogni mondo mi fa palpitar, ogni mondo mi fa palpitar, ogni mondo mi fa palpitar. Solo in nome d'amor diletto, mi si turba, mi sente l'equipo, e a parlare mi sforza.
Dire qu'il y a eu une aventure entre Charles Gounod et Pauline Viardot, c'est s'avancer un peu vite. Cela n'a jamais été prouvé. Pas plus que les hypothèses qui font de Claudie, la deuxième fille de Pauline, celle de Gounod. Quoi qu'il en soit, l'amitié qui les unit est très forte. Quand Pauline est à Londres ou à Berlin, Gounod lui écrit lettre sur lettre et en a presque honte. À un moment, c'est tous les jours. Et ce n'est pas tout. Il joint des fleurs à ses courriers, souvent des violettes. L'écrivain Ivan Tourguéniev, qui était pris de la cantatrice, se montre gentiment jaloux des réponses qu'elle adresse à Gounod. Ce monstre de Gounod, qui reçoit des lettres de 8 pages. Enfin, je ne veux pas lui envier son bonheur. Dans ses lettres, Gounod raconte à Pauline l'avancée de Sappho. Notre Sappho, comme il dit. Il a besoin de son regard d'experte. Tourguéniev lui donne aussi quelques conseils. à Courtavenelle, il est son « grand et unique tribunal », comme le dit Gounod. L'amitié de Gounod envers Pauline Viardot va parfois jusqu'au fétichisme. Il arrive au compositeur de travailler, et même de dormir, dans la chambre de la cantatrice alors qu'elle est absente. Il écrit « Je vis habituellement en vous et avec vous ».
Ma belle rebelle, là que tu m'es cruelle, ou quand d'un doux sourire la ronde mes esprits, ou quand d'une parole mignardée te m'emmole, ou quand de regard Dieu fièrement gracieux, ou quand de petits gestes tout divin, céleste, en amoureuse ardeur, tu plonges tout mon cœur. En amoureuse ardeur, tu plonges tout mon cœur. Oh, ma belle rebelle, là que tu m'es cruelle, quand la cuisante ardeur qui me brûle le cœur fait que je te demande à sa brûlure grande un rafraîchissement d'un baiser seulement. Oh, ma belle rebelle, là que tu m'es cruelle, quand d'un petit baiser tu ne veux m'apaiser, quand d'un petit baiser tu ne veux m'apaiser. Me puissais-je un jour dur venger de ton injure mon petit maître amour, depuis s'outrer un jour, et pour moi langoureuse, il te fasse amoureuse, comme il m'a langoureux pour toi fait amoureux. Alors par ma vengeance, tu auras connaissance quel mal fait du baiser. Quel mal fait du baiser un amant refusé.
À son retour, Pauline se jette sur la partition de Sappho, très curieuse de la découvrir enfin. Très vite, elle se met à posséder l'œuvre comme si elle l'avait écrite. Elle y apporte même quelques corrections. Gounod raconte « En quelques jours, elle fut si bien au courant de la partition qu'elle l'accompagnait en entier, par cœur sur le piano. C'est peut-être le tour de force musicale le plus extraordinaire dont j'ai jamais été le témoin. » Pauline lui rend bien l'appareil. Elle compare Gounod à Mozart. La première de Sappho a lieu le 16 avril 1851 à l'Opéra. Le succès est mitigé. Le style, lent et pathétique, déconcerte. Le public est plutôt habitué au final étincelant et acrobatique. L'histoire de Sappho, c'est celle d'une poétesse de l'Antiquité grecque qui, à la suite d'un amour malheureux, se jette du haut d'une falaise. Son air ultime, « Ô ma lyre immortelle, sommet de lyrisme », est l'une de ses pages les plus connues.
Thank you.
À sa création, Sapho ne fait pas l'unanimité, et le jeu scénique de Pauline Viardot, son interprète, non plus. En fait-elle trop ? Pour Théophile Gautier, non. L'écrivain loue ses dons de tragédienne. Ses poses de statue antique sont bluffantes. Il faut dire que Pauline a préparé le rôle à fond. Elle a relu ses classiques, Ovide en tête. D'habitude, la plupart des cantatrices, comme sa propre sœur, se contentent de chanter à l'instinct. Pauline, elle, privilégie une approche intellectuelle des rôles.
Contrairement à Maria, je ne pouvais concevoir de jouer Rosine ou Desdémone sans lire Beaumarchais ou Shakespeare. Et j'étais convaincue qu'on ne pouvait comprendre Iphigénie sans se plonger dans Sophocle et Euripide. Je m'interrogeais sans cesse sur les personnages que j'incarnais, sur leurs relations. Être un bon interprète passe par ce travail de documentation. Par exemple, j'ai beaucoup réfléchi au personnage de Zerline chez Mozart. Zerline n'est nullement une poupée attifée en bergère, une soubrette qui feint la naïve, une coquette qui agace Don Giovanni tout en minaudant l'innocence. Elle est hardiment naïve, très enfant, mais enfant du midi, en chair et en os. Elle subit involontairement l'influence démoniaque de Don Giovanni. Elle est fascinée par lui, comme un oiseau par un serpent. Résumons. Zerline est bonne, gaie, impressionnable et faible, mais innocente, tout en étant une nature ardente.
L'année 1852 démarre mal pour les Viardot. D'abord sur le plan professionnel. Le contrat de Pauline avec l'opéra a été rompu, mais à l'amiable, précise-t-on. Sur le plan politique, ça ne va pas fort non plus pour les Viardot. Le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte met fin à leur rêve républicain. Et un malheur en entraînant un autre, Pour couronner le tout, les relations avec Charles Gounod se dégradent. Sans les avertir, ce dernier décide soudainement de se marier avec une certaine Anna Zimmermann, fille d'un pianiste et compositeur renommé. Quelle ironie! Lui qui s'était toujours moqué de cette famille, traitant les filles d'affreuses nabots. Serait-ce là un mariage d'intérêt? Pauline est révoltée. Dans une lettre à George Sand, elle traite Gounod d'ingrat, d'égoïste, de vaniteux, de tartuffe. Lui qui avait été reçu comme un enfant de la maison. Quelle toupée! Mais Pauline sait se comporter, elle. Elle invite Gounod et Mademoiselle Zimmermann à dîner. L'événement est sans cesse repoussé. Quelques jours avant le mariage, Pauline met au monde sa petite Claudie. Elle ne peut donc pas assister aux noces. Et, cerise sur le gâteau, Gounod ne prend aucune nouvelle d'elle, ni de l'enfant. Pire encore, il renvoie le bracelet que Pauline avait eu la délicatesse d'envoyer à Anna en cadeau de mariage. Cette fois, c'en est trop. Louis Viardot intervient, en colère, et déclare à Gounod qu'il n'est plus le bienvenu. En fait, Gounod est pris dans les filets d'une belle famille jalouse, qui ne semble pas trop apprécier les Viardot. Il faudra de longues années avant que Pauline et Charles se réconcilient, dans les années 1860. Les oreilles du public français sont habituées au répertoire contemporain. On écoute Meyerbeer ou Bellini. Des compositeurs comme Gluck, Handel et Vivaldi ont moins la cote. Passé une dizaine d'années, une musique est déjà jugée vieillotte. Pauline Viardot, elle, a une passion pour la musique ancienne, en particulier pour Handel. Encore une fois, elle marche dans les pas de son père et de sa sœur. Ce répertoire, Pauline va le mettre à l'honneur dans ses concerts, partout où elle passe. Et petit à petit, une partie de son auditoire va adhérer. Son amour pour la musique ancienne, Pauline le partage avec Hector Berlioz, un autre de ses admirateurs. La première fois que Berlioz entend Pauline, nous sommes en mars 1839 et l'affaire démarre mal. Ce soir-là, Pauline, toute jeune cantatrice, interprète Eurydice dans un duo tiré d'Orphée, justement. Pour Berlioz, son interprétation ne va pas. Il écrit: en substituant aux notes hautes de Gluck les sons de contralto qu'elle fait vibrer avec tant de bonheur, elle est aussitôt sortie du rôle d'Eurydice, a rompu le charme qui le soutenait, a détruit l'unité et la vérité de la conception du maître, et, au lieu de l'épouse d'Orphée, au lieu d'une créature digne de la poésie antique, ne nous a donné qu'une cantatrice moderne, à la voix très étendue. Comme Pauline, Berlioz a des difficultés à s'imposer en France. Il est boudé par le public, qui comprend mal sa musique. Et la mauvaise ambiance qui règne à l'opéra, sans parler des soucis administratifs, tout cela a de quoi l'agacer. C'est donc à l'étranger, surtout en Allemagne et en Angleterre, que nos deux expatriés de la musique vont se recroiser et commencer à collaborer. Dans les années 1850, Pauline Viardot et Berlioz deviennent amis. Et, comme Georges Sand, comme Charles Gounod, Berlioz réclame Pauline quand elle est loin. Les lettres qu'elle reçoit à Courtavenel doivent la faire bien sourire. Berlioz lui écrit « Quand revenez-vous à Paris ? Que la grêle, le froid, le vent, les voisins et la partie de Boston vous accablent à la campagne. Que la province se déchaîne contre vous, c'est ce que je souhaite. Peut-être alors rentrerez-vous dans le monde civilisé. » Berlioz est maintenant un régulier des dîners chez les Viardot. Une famille charmante où je respire le bonheur, comme il l'écrit à sa sœur, Adèle Sua. Ils sont si intelligents et si bons tous les deux. Leurs enfants sont si gracieux et si bien élevés. À la fin des années 1850, Léon Carvalho, le directeur du Théâtre Lyrique à Paris, se fixe un objectif de taille. Recréer l'Orphée de Gluck. Et dans le rôle d'Orphée, c'est Pauline Viardot qu'il veut. Elle chante le répertoire ancien si admirablement. Mais problème, dans la version originale de 1762, le rôle est prévu pour une voix de castra. Et dans celle de 1775, pour un ténor. Il faut donc le réécrire. Et c'est Berlioz qui va s'en occuper, évidemment. Qui d'autre ? Carvalho sait qu'il vénère Gluck. Le compositeur est aux anges.
Ne souris-tu, sois cruel, que la
La recréation d'Orphée va être le fruit d'une étroite collaboration entre Berlioz, Pauline Viardot, mais aussi Camille Saint-Saëns, alors âgée de 24 ans. Un jeune lion musical que Berlioz adore. Un grand musicien qui connaît son Gluck presque comme moi, dit-il. Saint-Saëns intervient surtout pour remanier l'air virtuose de la fin du premier acte, complètement démodé. Surchargé de vocalises, il avait été ajouté pour mettre en valeur le ténor de la version française. Même Pauline participe activement à sa réécriture. Elle modifie les traits, substitue au vermicelle rococo des arabesques de grand style, selon Saint-Saëns. Le 18 novembre 1859, c'est jour de première. 10 ans après le prophète de Meyerbeer. Et après Fidès, Orphée va être l'un des plus grands rôles de Pauline. Elle se souvient.
Cette première a été un succès énorme. J'ai été rappelée avec frénésie. Mon costume, dessiné par Delacroix, a fait son effet. Une tunique blanche, descendant aux genoux, avec un manteau blanc retenu sur les deux épaules à l'Apollon. Je portais une couronne de laurier sur mes cheveux bouclés. Le théâtre lyrique était euphorique. On s'embrassait dans les corridors, dans les entr'actes. On pleurait, on riait de bonheur. On trépignait. Enfin, c'était un vacarme, une fête comme je n'en avais jamais vu à Paris. Ce rôle d'Orphée m'allait comme s'il avait été écrit pour moi. L'air de bravoure a fait un effet monstrueux. Le duo avec Eurydice a fait beaucoup d'effets aussi, mais ce qui a été le point culminant, c'est l'air « J'ai perdu mon Eurydice ». Il me semblait avoir trouvé 3 bonnes manières de dire le motif. La première fois, douleur étonnée, presque immobile. Deuxième reprise, étouffée par les larmes. On a applaudi pendant 2 minutes et on voulait un bis. La troisième fois, éclat de désespoir. Ma pauvre Eurydice a dit en se relevant « Ouf, j'ai cru que cela ne finirait jamais ».
Après un tel succès, Carvalho, le directeur du théâtre lyrique, est décidé à monter Les Troyens, l'opéra auquel Berlioz a travaillé en parallèle d'Orphée. Le compositeur exulte. Berlioz trouve sa muse sublime dans le rôle de Cassandre. Elle en a chanté quelques fragments l'été passé, quand ils étaient à Bade, en Allemagne. Les Troyens enthousiasment Pauline et elle conseille Berlioz dans sa composition. Il la nomme « ma chère critique collaborateur ». Ou encore « Cher incomparable critique ». À Paris, le compositeur et sa muse habitent à 2 pas. Elle rue de Douai, lui rue de Calais. Pratique pour échanger des notes. Berlioz écrit « J'ai travaillé depuis 8 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Vous m'avez fait démolir bien des choses. Je suis bien triste que vous ayez si souvent raison. Je serais peut-être plus triste encore si vous aviez tort. J'aime penser et sentir comme vous. » Pauline l'aide aussi avec la réduction de la partition d'orchestre pour le piano. Berlioz n'a jamais étudié cet instrument. Heureusement, Pauline est une excellente pianiste. Tout ce travail sur Orphée et les Troyens rapproche Pauline et Berlioz. Et Berlioz tombe fou amoureux de Pauline. Celle-ci en est d'ailleurs très embêtée. Berlioz l'aime trop. Et encore une fois, elle ne partage pas les sentiments de l'intéressé. Elle s'en veut presque. Berlioz est un homme malade, malheureux. Il fait peine à voir. Cela la remue. Mais la fièvre monte et Berlioz continue à idéaliser Pauline. Peut-être trop vite, trop fort. Presque du jour au lendemain, le compositeur prend une décision radicale. Pauline ne sera ni Didon, ni Cassandre, et ne créera pas les Troyens. Difficile de connaître les causes exactes d'un tel revirement. Berlioz racontera partout que la voix de Pauline est usée. Très classe. Résultat, Pauline ne vient même pas assister à la première des Troyens, le 4 novembre 1863. Ceci dit, à cette époque, elle n'habite plus Paris et a mieux à faire. Elle vit maintenant en Allemagne avec sa famille, à Bade, et ils ne sont pas près de rentrer. Fin du cinquième épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, une série de 8 épisodes proposée par Charlotte Landru-Chandès avec la voix de Stéphanie Doustrac dans le rôle de Pauline Viardot. Prise de son, Claude Niort, Fabien Capel, Éric Boisset, mixage Benjamin Vignal, réalisation Lionel Quentin, attaché de production Nelly Portal. D'après les biographies de Patrick Barbier, Michel Friant, Gustave Dulon et Alexandre Zwigilski. Podcast et réécoute sur notre site francemusique.fr. Dans le prochain épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, une immersion dans le salon musical des Viardot, où on croisera du beau monde, un certain Richard Wagner par exemple. Et on fera aussi connaissance avec les 4 enfants de Pauline.
À réécouter sur francemusique.fr.